L'écoféminisme, c'est à la fois un mouvement de pensée et un mouvement social de terrain. C'est pas un concept, mais c'est un moyen d'approcher le monde en pensant conjointement la domination patriarcale et l'exploitation capitaliste du monde non humain. C'est un prisme qui aide à lire comment la domination masculine, socioculturellement construite et maintenue, s'imbrique fort adéquatement avec l'exploitation des ressources dites naturelles par les sociétés modernes, capitalistes, dites avancées. Pour commencer, je vais partir de moi et raconter comment ce prisme interprétatif s'est imposé comme outil d'analyse des rapports de domination. En 2015, j'ai obtenu un contrat doctoral et je suis partie en séjour de recherche aux États-Unis. J'ai traversé ce pays, large comme un continent, en bus, et j'ai beaucoup regardé par la fenêtre. À une escale, Asheville, en Caroline du Nord, j'ai remarqué des femmes qui tenaient un piquet de grève devant un coffee shop, Waking Life. On peut lire sur le panneau « Fuck your misogynist bullshit ». Elles sont, sans le savoir encore, en train d'inventer le hashtag MeToo. Les deux propriétaires du coffee shop ont été identifiés comme de fiers pick-up artists, selon leurs termes, des artistes de la drague, selon leurs termes, des prédateurs misogynes, selon les miens. Ils tenaient un blog où ils racontaient leurs méthodes de séduction, détaillaient leurs rapports sexuels avec les femmes qu'ils avaient manipulées et dénigrées. Ils les humiliaient en ligne. Les termes qu'ils ont utilisés pour décrire ces femmes sont brandis sur des pancartes et l'accès au coffee shop a été bloqué. Ils ont été amenés à déposer le bilan. Je reprends le bus, je traverse les États du Sud, d'Est en Ouest, le décor change beaucoup après la Louisiane. Les terres sont plus sèches et les villes apparaissent vraiment comme des immenses champignons géométriques de béton, reliés par des artères de bitume. Aux escales, les rues sont désertes, les lignes si rectilignes, les voitures partout. Je rumine deux tristes constats. Voyager seule, être une meuf cis, être perçue comme une meuf cis, fait potentiellement de moi une proie. L'autre, les villes sont encore en expansion, les humains sont de plus en plus isolés, le béton et le bétail occupent des terres volées, des terres violées. Je cherche le sens de ma thèse. Mon premier objet de recherche en master, c'était la contre-culture nord-américaine. L'élan anti-société de consommation doit germer la conscience écologique contemporaine et doit jaillir aussi un bon pan de la conscience féministe contemporaine. Troisième constat, je sais où aller me cacher. Blanche, classe moyenne, salariée, éduquée, j'ai accès à la bouffe végane, aux outils partagés de connaissances de soi, de mieux-être. Je sais que la décroissance est possible, car j'ai accès à certains espaces. Je connais le chemin. Mais ce privilège-là est contingent de ma classe sociale. Dans le bus, je suis souvent la seule blanche. Les gens qui voyagent en Greyhound ont soit pas le permis, ou l'ont perdu, et ont en tout cas peu d'argent. Ils ou elles rejoignent de la famille, cherchent un emploi, un traitement médical moins coûteux. Le monde dont je rêve n'est pas indiqué dans les manuels, il existe utopiquement dans quelques entre-soi. Point d'arrivée, Berkeley, en Californie. Point de départ de la contre-culture nord-américaine, en 1964, Free Speech Movement, critique ouverte de l'engagement militaire des États-Unis au Vietnam. Lutte antiraciste, féministe et écologiste se côtoient et s'énoncent. J'arpente les librairies, un peu émue, comme dans un musée vivant. Un soir, dans une librairie qui ferme tard, Moe's Bookstore, je vois un rayonnage qui indique « Eco-Feminism ». Première rencontre avec ce mot, « Eco-Féminisme ». Des dizaines de livres sur l'étagère, je reste à lire dans l'allée jusqu'à la fermeture. Voici une liste semi-réinventée des livres qui figuraient sur cette étagère. On commence, n'est-ce pas, par une introduction à l'écoféminisme où je vais essayer de vous donner les sources que moi j'ai trouvées en première et qui m'ont parlé. C'est l'occasion de vous transmettre un petit pan de bibliographie. Silent Spring, Rachel Carson, 1963, Un printemps silencieux. C'est une biologiste qui travaille sur l'effet des intrants chimiques dans l'agriculture et qui écrit un roman qui est aussi un livre pédagogique de biologie et de génétique. Et qui commence par une petite histoire dans un village typique américain où, un jour de printemps, les habitants et les habitantes remarquent que les oiseaux ne chantent plus. 1963. À la suite de ça, va y avoir la création de la Environmental Protection Agency, la protection de l'environnement, l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis, et l'interdiction d'utilisation du DDT dans les cultures. Le féminisme ou la mort, Françoise Daubonne. Elle écrit ce livre en 1974. C'est une compagne intellectuelle de Ivan Illich, de André Gortz, et c'est elle qui forge le terme écoféminisme, qui les rassemble et qui établit que la société capitaliste et la société patriarcale fonctionnent de manière imbriquée et que c'est seulement par le féminisme, par la prise de conscience de la crise écologique et de la domination masculine, que l'on pourra s'assurer une occupation pérenne de la planète, en fait, de pouvoir maintenir notre façon de vivre. Witches, Midwives and Nurses, ça c'est un pamphlet à l'origine, c'est un livre autoproduit, auto-édité. C'est un manifeste d'historiographie médicale qui explique comment les femmes ont été exclues progressivement de la pratique médicale, qui explique pourquoi et qui explique quelles conséquences ça a eu sur la perception du corps féminin, son objectification. Gyne Ecology de Mary Daly, qui travaille beaucoup sur le langage. Et là, on voit que la barre oblique, c'est une hache à double tranchant qui sépare gyne, ecology. Gyné, en grec, c'est le féminin ou la femme. Eco, oikos, c'est la maison. Logis, logos, la parole, mais c'en est venu à signifier l'étude d'un discours. Donc, elle dit que écologie, c'est l'étude de l'habitat, de comment on vit et comment les personnes et tous les êtres, humains et non-humains, interagissent les uns avec les autres. Donc la gynécologie, ce serait l'étude de la maison des femmes, ou l'étude de la maison du féminin. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans la société où nous vivons. Woman and Nature, Suzanne Griffin, 1976, je crois. Je n'ai pas spécifié lesquels sont traduits ou pas. Il faut quand même que je vous montre dans la collection Sorcières chez Isabelle Cambourakis. C'est une très bonne source de traduction et de magnifique édition de textes écoféministes, notamment celui qu'on a vu tout à l'heure, Sorcières, sages-femmes et infirmières. Il est traduit, et là il y en a trois. Woman and Nature, là c'est un travail d'archives, médicales, théologiques, c'est-à-dire qu'elle reprend des textes, elle va jusqu'à la philosophie antique, elle remanie ses textes pour faire émerger la voix du patriarcat, et petit à petit, essayer de faire émerger d'autres voix, des voix dissidentes, des voix silenciées, des voix qu'on entend moins. C'est un long poème en prose, extrêmement fourni, extrêmement documenté, avec les références à la fin. The Death of Nature, Women, Ecology and the Scientific Revolution. Carolyn Merchant, c'est une historienne, philosophe, qui travaille à l'université de Berkeley, en Californie. Et elle qui montre comment, pendant la révolution scientifique, les représentations de la nature et les représentations des femmes ont évolué de façon à favoriser une domination et du groupe social dit des femmes et de la nature. Dreaming the Dark, Magic, Sex and Politics de Starhawk, ça aussi c'est traduit Rêver l'obscur, femme, magie et politique. Là c'est un... Starhawk c'est une activiste antinucléaire, pacifiste, écologiste, et qui transmet aussi des pratiques de formation de groupe. On appellerait ça en France de l'éducation populaire, en quelque sorte. Comment faire groupe, comment faire cohésion pour s'organiser, militer, lutter ensemble, avec un prisme féministe très fort, et une prise en compte de la spiritualité des femmes, ou des personnes non mexices. Absolument. Cis, donc c'est, ça vient du latin. Cis, ça signifie identique ou le même. Une personne cis, c'est quelqu'un qui se reconnaît dans le genre qui lui a été assigné à la naissance. Une personne trans, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans ce genre-là et qui... Ou pas ? Oui, si, ça va, ce que je dis ? Et je suis loin d'être experte, mais en tout cas, cis, c'est quand l'identification attribuée à la naissance est concordante avec la façon dont on se perçoit. Trans, c'est quand c'est pas le cas. Une femme trans, c'est une personne qui se perçoit femme. Un homme trans, c'est une personne qui se vit homme. Je sais plus où j'en étais, mais voilà. Quand vous entendez parler d'un homme trans, c'est une personne qui est homme. Quand vous entendez parler d'une personne qui est femme trans, c'est une personne qui est femme. Il n'y a pas de piège à ce niveau-là. Là, ça veut plus. Hop. Je voudrais passer à la suivante. Peut-être si je retourne là, c'est pour vous montrer celle-ci, justement. Women's Spirituality, The Politics of Women's Spirituality, c'est un peu dans la continuité de Starhawk. En fait, il y a un article de Starhawk dans ce livre-là, La politique de la spiritualité des femmes. En fait, c'est une réflexion sur comment faire si on n'est pas athée. et qu'on fait partie des groupes sociaux dominés pour avoir une vie spirituelle, étant donné que les monothéismes sont relativement misogynes, ou du moins tout personnage féminin a plutôt une place secondaire. Donc comment aller chercher des ressources qui permettent d'avoir une vie spirituelle et de se référer à d'autres représentations, à d'autres archétypes que des formes masculines. Donc Charlene Spratnak, elle édite le livre. Dedans, on va avoir aussi When God Was a Woman, là on est en plein dedans, Merlin Stone, qui mélange mythologie, archéologie pour aller à la recherche de cultes anciens féminins, une époque où on aurait plus révéré la déesse qu'un dieu. Donc vous entendez comment en fait c'est des recherches qui sont toujours linguistiques, historiques, culturelles, philosophiques, théologiques. L'écoféminisme permet de brasser beaucoup de choses. Civilization of the Goddess, celui-ci, c'est Maria Gimbutas, qui est une archéologue lituanienne et qui rassemble des données ses recherches sur le néolithique, ses recherches d'une société potentiellement matriarcale. Et il y en a un exemplaire à la BU, droit-lettres, ici à l'université. Une personne qui est plus connue aujourd'hui sur l'écoféminisme, c'est Vandana Shiva, qui écrit « Écoféminisme » en 1993 avec Maria Mais. Maria Mais, c'est une philosophe allemande. Vandana Shiva, c'est une généticienne indienne. Et donc, on a là un dialogue entre une personne du Nord et une personne dite des Suds, qui réfléchit sur le rapport à l'environnement et au féminisme en établissant un dialogue entre les deux hémisphères. Donc, c'est un livre très dense, qui parle beaucoup de l'agriculture, de groupes sociaux, de pauvreté, qui s'adresse à la question de la pauvreté. Je suis presque à la fin. Feminism and the Mastery of Nature, on ne voit pas très bien. Val Plumwood, c'est une philosophe australienne. Et en fait, la barre rouge, là, ce n'est pas une erreur. C'est qu'elle établit qu'il y a une dualité immense entre l'espèce humaine et toutes les formes de vie dites non humaines. Et donc, elle travaille sur la notion d'anthropocentrisme, mettre l'anthropos, l'humain, au milieu de tout. Et elle réfléchit à des façons de subvertir ou de retourner cet état de fait en s'inspirant notamment de l'écoféminisme. Et enfin, la dernière et pas des moindres, Caliban and the Witch, Women, the Body and Primitive Accumulation, Silvia Federici, c'est 2003. Et là, c'est une historienne marxiste qui s'intéresse à l'exclusion des femmes de l'espace public tout au cours de la phase d'accumulation primitive du capitalisme. Il y a la fermeture des communs, il y a la privatisation des communs, l'exclusion des femmes qui seraient célibataires, âgées, qui auraient opté pour un mode de vie qui n'est pas conjugal et qui n'aurait pas d'hommes pour les protéger, se retrouvent en marge de la société et à devoir trouver d'autres façons d'exister et de survivre. Et c'est le travail de Silvia Federici que d'analyser... C'est comment le capitalisme se construit sur l'exclusion des femmes de la sphère publique. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Donc Ursula Le Guin, là je ne l'ai pas citée dans la bibliographie que je vous ai montrée, c'est des œuvres, c'est ce qu'on appelle de la littérature grise, c'est-à-dire des ouvrages théoriques qui ont été écrits pour réfléchir à la question de l'écologie et du féminisme. C'est aussi... un mouvement de terrain, l'écoféminisme. Moi, là, je ne vais pas en parler parce que je le maîtrise moins et je l'ai moins éprouvé que dans les livres, mais c'est un mouvement dont les exemples abondent en Indonésie, au Mexique, en Inde, au Brésil, au Kenya, aux États-Unis, en Angleterre. Donc, pour préciser, la présentation que moi, je fais, elle est très cérébrale et intellectuelle. Du moins, elle l'est beaucoup plus qu'une lutte de terrain où des femmes s'organisent pour défendre leurs moyens de subsistance. L'écoféminisme, c'est aussi ça, et c'est peut-être avant tout ça. Il faut que je vous ajoute une dernière remarque pour qu'on rentre dans le sujet de la nouvelle, c'est vous proposer une définition de l'anthropocène. Allier l'écoféminisme à l'anthropocène, c'est bien utile, ça nous permet d'être dans le XXIe siècle et de penser la question écologique contemporaine en essayant d'y ajouter la question féministe aussi. Donc selon Philippe Descola, organisateur du colloque de 2015 « Comment penser l'anthropocène ?», ce terme veut marquer que l'humanité est devenue une force géologique capable d'affecter le climat de la planète. Comment ce changement, à la fois global et diversifié, peut-il être réfléchi ? Quels sont les savoirs qui sont mobilisés pour y répondre et comment peut-on les caractériser ? Les sciences du climat mobilisent aussi les spécialistes des sciences humaines, philosophes, anthropologues, historiens, historiennes, sociologues et autres. Ainsi, l'anthropocène oblige à relier sciences naturelles et sciences humaines, ce que l'écoféminisme fait d'emblée. Relier la crise écologique à l'émancipation féministe, c'est tenter d'aller par-delà nature et culture. Et j'ai encore une remarque à faire en préambule sur cette image. Quelqu'une me faisait remarquer, quand je choisissais cette image, qu'elle était un peu trop science-fictionnelle pour parler d'écoféminisme. Elle m'a dit « ça fait vraiment science-fiction ». Et je lui ai dit « bah oui, mais sinon, il faut mettre une femme dans la nature ». Et là, le malencontreux amalgame sauterait trop aux yeux. Relier les femmes et la nature, ce serait pas un peu essentialiste ? Analyser par quelles opérations et dans quel contexte culturel et sociopolitique les femmes sont naturalisées, c'est-à-dire assignées à des rôles moins valorisés et moins importants que ceux qu'occupent des hommes, ce n'est pas essentialiste. Remarquer que les femmes sont associées au travail de reproduction et les hommes au travail de production est une observation marxiste qui n'essentialise pas les groupes sociaux, mais souligne que les activités dites naturelles et celles dites culturelles sont, dans les sociétés occidentales, distinguées et hiérarchisées. Et sur cette illustration décimée, une femme est une planète à elle seule. L'artiste a-t-elle féminisé la planète ou naturalisé Ursula Le Guin ? Ou rendu compte que chaque être est un monde à part entière ? L'écoféminisme, c'est ce jeu d'équilibre entre le concept de femme ou le concept de genre, le concept de nature, et comment ce sont les définitions de ces concepts qui conduisent à des comportements et à des pratiques culturelles. C'est de réfléchir toujours les deux ensemble. L'écoféminisme est pour l'instant presque de la science-fiction. Ce sera le fil conducteur de mon propos que d'expliquer comment la nouvelle « Sur » d'Ursula Le Guin est une œuvre courte de science-fiction écoféministe et qu'elle parle autant d'hier que d'aujourd'hui. Nous invitons à penser à des lendemains sans hiérarchie sociale, en fonctionnement horizontal avec l'ensemble du monde vivant. La nouvelle fut publiée pour la première fois en 1982 dans l'hebdomadaire The New Yorker. Je me fonde aussi sur l'article d'Elena Glasberg, Refusing History at the End of the Earth, publié en 2002. J'ai traduit quelques extraits de cet article et je vais proposer aussi quelques révisions de la traduction française du texte de 88. On va aborder la nouvelle en trois temps. D'abord, j'essaierai d'évaluer le caractère volontaire ou nécessaire de la non-mixité dans laquelle s'organisent les femmes de l'expédition polaire. Ensuite, nous verrons comment l'habitat que construisent les femmes de l'équipée imaginaire dans un cadre de non-mixité est à la fois une critique de la façon dont l'idéologie de conquête capitaliste et patriarcale occupe la Terre et une contre-proposition écoféministe qui réfute la hiérarchisation du vivant. Et enfin, nous verrons comment les principes de coopération que mettent en œuvre ces femmes facilitent leur orientation dans l'espace et dans l'histoire. La nouvelle, je vais la résumer au fur et à mesure. Cette image-là, donc c'est une image, Sur, qui parle de la dite conquête de l'Antarctique. C'est-à-dire qu'au tout début du XXe siècle, les puissances européennes se sont livrées une sorte de course à qui irait explorer les derniers endroits du globe où l'homme n'avait jamais mis le pied. Là, c'est vraiment l'homme avec un petit H, où l'homme n'avait jamais mis le pied. Et l'Antarctique est le dernier territoire à être foulé du pied par un homme. L'exploit initial, c'est le Norvégien Roald Amundsen, qui est historiquement reconnu pour avoir atteint avec son équipe les coordonnées géographiques indiquant le pôle sud de la planète Terre. On voit là le drapeau norvégien et on voit ces hommes qui prêtent allégeance au drapeau norvégien alors qu'ils viennent de parcourir des centaines et des centaines de kilomètres dans la neige. C'est donc la photographie des vainqueurs, parce que vous allez voir qu'il y a eu des perdants dans cette course. La nouvelle, Sur, parodie le style des récits d'exploration territoriale populaire au XIXe et XXe siècle. L'appropriation du pôle sud par l'espèce humaine, et en particulier par des explorateurs blancs, clôt une longue période de conquête et de colonisation du globe par les puissances européennes. En 1895, la British Royal Geographic Society l'avait en effet déclaré « dernier territoire inconnu sur Terre ». L'événement le plus marquant de l'exploit est toutefois la course qui opposa le Norvégien Roald Amundsen au Britannique Robert Falcon Scott, pendant l'hiver 1911-1912. Amundsen, ses hommes et ses chiens de traîneau, partis de la baie des Baleines le 19 octobre, atteignent le pôle le 11 décembre. Scott et son équipe y parviennent le 17 janvier 1912 pour y voir planter le drapeau norvégien. On n'a pas de photo de cet événement, de l'immense déception de l'équipe de Scott qui arrive pour voir qu'il y a déjà un drapeau au pôle sud. Sur la route du retour, l'équipe de Scott meurt de froid à 20 km d'un dépôt de nourriture et de pétrole prise dans un blizzard. Le journal de Scott est retrouvé dans sa poche. Son dernier geste aura été d'y écrire. Cet exploit est donc teinté d'échec, comme si l'héroïsme et la défaite devaient aller de pair pour raconter la grandeur de l'homme. Des expéditions précédentes avaient déjà établi un campement à Hut Point, d'où Scott était parti. La course que se livrèrent les deux explorateurs est menée au nom de leurs nations respectives. Scott œuvre pour la monarchie parlementaire britannique, Amundsen pour la monarchie parlementaire norvégienne. L'idéologie de la conquête et de l'expansion territoriale est donc le principal moteur de ces missions d'exploration. Si les expéditions polaires, au nord comme au sud, sont à vocation scientifique, elles participent aussi d'une glorification des exploits humains dans une démarche en mixité choisie, sans femmes cis. Dans la nouvelle, Eva, Pepita, Dolores, Carlota, Zoé, Berta, Teresa, Juana et la narratrice de la nouvelle sont les membres d'une cohorte féministe inventée par Le Guin. Ces femmes péruviennes, argentines et chiliennes concoctent par et pour elles-mêmes, leur propre mission d'exploration polaire, en 1909, soit 2 ans avant l'exploit d'Amundsen. Le capitaine Pardo, en charge du navire qui les débarque en Antarctique, redouble de recommandations. « Stay put, make no journeys, take no risks, beware of frostbites, don't use edge tools, look out for cracks in the ice. » Formulant ainsi autant d'assignations de genre. Faites attention à vos corps, n'utilisez pas d'outils dangereux, n'allez pas au-devant du danger, restez à votre place. L'équipe n'obéira pas aux recommandations et atteindra le pôle à l'hiver 1909, soit 2 ans avant l'exploit historique de Roald Amundsen. Toutefois, le geste littéraire de Le Guin ne doit pas être envisagé comme un simple retournement d'une certitude historique. Plutôt que la prouesse en elle-même, ce sont les finalités des tentatives de conquête du pôle sud qui sont subverties par celles des personnages de Le Guin. Point de drapeau, point d'honneur, point de nation fière de leur exploit. J'ai utilisé plus haut le terme de non-mixité, car les femmes du voyage s'organisent exclusivement entre femmes cis. On préfère aujourd'hui la notion de mixité choisie, en spécifiant les choix qui s'appliquent. Mixité choisie sans mec cis, mixité choisie entre personnes racisées, mixité choisie trans-PD, bi, gwyn, et j'imagine que d'autres possibilités sont à explorer. Il me semble que cette notion de mixité choisie permet de définir un temps, un espace et une démarche de concertation, de rencontre et d'organisation entre des personnes souhaitant exclure temporairement de leur groupe d'autres qu'elles identifient comme représentantes, plus ou moins malgré eux ou malgré elles, d'un rapport de domination. L'équipée féminine et le contexte socio-historique dans lequel elle s'organise, en l'occurrence le début du XXe siècle, ne pourraient être qualifiées de groupes en mixité choisie, car les contingences culturelles et sociales qu'elles doivent dépasser pour mettre en œuvre leur projet d'exploration n'est pas un choix, mais une nécessité. Si des hommes les avaient accompagnées, elles n'auraient pas pu faire l'expérience de leur propre autonomie. Elles n'auraient pu découvrir leurs propres forces, elles n'auraient pas pu élaborer leur propre mode d'organisation et de prise de décision. Cette non-mixité ne relève pas du choix, mais d'une nécessité culturelle. Elles mentent à leurs époux et disparaissent de l'environnement social conventionnel, où leurs déplacements et agissements sont limités par l'enveloppe, à la fois abstraite et concrète, de la sphère domestique. Elles vivent dans des sociétés où le mensonge est nécessaire pour pouvoir s'organiser entre elles. Cette non-mixité n'est donc pas choisie, mais indispensable. Et je pense qu'on pourrait transposer la question au début du XXIe siècle, puisque des personnes mettent encore en place des mensonges et des stratégies pour accéder à des espaces de non-mixité et de mixité choisie. La non-mixité ici est conditionnelle de leur exploration, car il faut s'extraire autant que possible de l'emprise patriarcale sur les gestes, les pensées, les choix et modes de décision pour explorer des alternatives. Pour s'organiser, elles ont recours à des « machinations alambiquées », je cite la nouvelle, à de purs mensonges, elles durent employer des astuces afin de se rendre libres. Leur objectif est de voir, d'observer, d'être témoin. Elles ne peuvent de toute façon pas prétendre à une expertise scientifique. Je cite la nouvelle. « Y aller voir, rien de moins, rien de plus. N'ayant reçu aucune formation dans une science quelconque, Et n'ayant jamais eu l'occasion de recevoir une telle formation, mon ignorance m'obligeait à renoncer à toute idée d'ajouter quoi que ce fût à l'ensemble des connaissances scientifiques concernant l'Antarctique. Il en était de même pour toutes les membres de mon expédition. Cela semble désolant, mais nous ne pouvions rien y faire. Notre but se limitait à l'observation et à l'exploration. Une ambition simple, je crois, et surtout modeste. La narratrice reconnaît la modestie de l'entreprise polaire dont elle fait partie. Implicitement, c'est Le Guin qui met en exergue l'humilité de l'équipée féminine par rapport à l'orgueil et au souci de notoriété et de postérité des équipées masculines dans des circonstances similaires. Deuxième partie, refuser la hiérarchisation du vivant, c'est un principe qu'on retrouve souvent dans l'écoféminisme. Remarquez qu'il y a une hiérarchisation des groupes sociaux et des groupes animaux, végétaux, minéraux, et réfléchir à comment tout ça pourrait peut-être être soit horizontalisé, soit rendu cyclique, ce qui est encore une autre réflexion. Les manchots. Il y a des manchots dans la nouvelle et qui nous éclairent sur ce refus de la hiérarchisation du vivant. C'est la perspective écologique qui distingue en premier lieu l'exploration masculine canonique de celle a priori fictive de nos héroïnes. Lorsqu'elles mettent pied à terre, 8 manchots d'Adélie les saluent. La narratrice relate cette rencontre et d'emblée considère ces êtres comme des habitants de l'Antarctique. Elle leur attribue même, sans hésitation, des facultés de compréhension et d'interaction. Je cite la nouvelle, « 8 manchots d'Adélie arrivèrent immédiatement pour nous accueillir et manifestant avec forte exclamation un intérêt non dénué d'une certaine désapprobation. Où diable étiez-vous donc? Pourquoi avez-vous mis si longtemps à venir ?» Ce premier passage laisse songeuse quant aux intentions de Le Guin. Les manchots s'adressent-ils implicitement aux subalternes de tous horizons qui peinent et tardent à prendre leur envol? Les manchots continuent néanmoins d'indiquer la voie. « La cabane est dans cette direction. Venez par ici, s'il vous plaît. Attention aux cailloux !» Ils insistèrent pour que nous allions visiter Hut Point. Le terrain alentour était absolument dégoûtant. Une sorte de cimetière de peaux de phoque, d'os de phoque et de manchots, et des tas d'ordures sur lesquels régnaient des skoas, qui ne cessaient de voltiger et de hurler. Tout en se dandinant, nos compagnons dépassèrent calmement l'abattoir, et l'un d'eux m'accompagna même personnellement jusqu'à la porte de la cabane, mais il refusa d'y pénétrer. Les manchots, dans le regard de la narratrice, sont doués d'agentivité, de sensibilité, de volonté. Donc les manchots, dans la nouvelle, sont doués d'agentivité, de sensibilité, de volonté. Ils peuvent accepter ou refuser, guider ou proposer. C'est pour moi le trait saillant d'une approche écoféministe de l'exploration, donnant à imaginer aussi ce que serait une aventure portée par un soin et une attention éco-psychologique, c'est-à-dire entendant la psyché humaine comme inclus et participant d'un continuum écologique. Les femmes ne sont pas plus proches de la nature, mais potentiellement solidaires de groupes identifiés comme subalternes, que ces groupes soient de communautés animales, végétales ou humaines. Elles-mêmes éduquées à être des subalternes, elles peuvent éprouver de l'empathie pour et faire preuve de solidarité avec d'autres groupes identifiés comme tels. Je cite la nouvelle, « Toutes les 9 nous étions et nous sommes, de naissance et par éducation, de façon non équivoque et irrévocable, du côté de l'équipage, non des officiers. » Les manchots indiquent la cabane des précédents explorateurs. Ses abords sont jonchés d'ossements et d'ordures, absolument dégoûtants. L'intérieur déçoit aussi les exploratrices. L'ensemble était sale et en grand désordre. Les boîtes de conserve, morceaux de biscuits et crottes de chien jonchaient le sol. Même si ces derniers occupants avaient dû partir à la hâte, la narratrice leur reproche le désordre et profère à leur égard ce qui pourrait bien être une maxime écoféministe. Le travail ménager, cet art du jamais fini, n'est pas un jeu d'amateur. Toutefois, une révision de la traduction française publiée en 1988 s'impose. En anglais, la citation c'est « Housekeeping, the art of the infinite, is no game for amateurs ». La traduction française opère des choix qui me semblent discutables. « Housekeeping » est formé de « house » plus « keep » plus « ing ». Il est donc plus question de travail domestique, du latin « domus », la maison, le domaine, que de travail ménager. Deuxièmement, cet art, l'art de la domesticité, est qualifié d'infini et non pas de jamais fini. En insérant un adverbe de négation aussi total que jamais, le traducteur amoindrit l'envergure de l'adjectif infinite ou infini. Comme les glaces polaires, les étendues blanches, l'immense liberté que les femmes de l'expédition se sont octroyées, leur horizon pour créer un habitat est infini. De plus, oikos, le terme grec, renvoie lui aussi à l'habitat. On pourrait donc extrapoler, sublimer la discrète remarque sur la domesticité en formule disant « prendre soin de là où l'on vit, art infini des tâches quotidiennes n'est pas un jeu d'amateur. L'écologie, l'habitat, la planète, et vous allez voir qu'elles vont choisir une autre option que cette occupation qu'avait choisie l'équipée masculine. La notion d'infini sous-tend la décision du groupe d'aller construire autrement, ailleurs. L'une d'elles propose même de mettre feu au taudis. Aucune n'aimait l'idée d'y faire le ménage. L'écoféminisme ne véhicule pas l'idée rapide et raccourcie selon laquelle les femmes seraient naturellement plus proches du foyer, de la domesticité ou de la reproduction. J'insiste. Ce mouvement interroge plutôt quelles opérations de naturalisation confortent cette équation. Le terme écoféminisme implique une utilisation intersectionnellement équilibrée des deux concepts qui le composent, l'écologie et le féminisme, même si le procédé d'analyse peut s'intéresser en premier lieu aux assignations de genre ou à une critique des conséquences écologiques de certaines formes d'activité humaine. La façon dont l'équipée procède à la construction de leur habitat répond à ces critères. Ne voulant reproduire ni l'abattoir des charges qui entoure la cabane de leurs prédécesseurs, ni s'exposer inutilement aux intempéries, elles décident de creuser dans la glace. Malheureusement, je n'ai pas de photo de ce qu'elles construisent. Je cite la nouvelle. Nous creusâmes une série de compartiments à même la glace, que nous tapissâmes ensuite de fourrage en guise d'isolant, puis de planches de pin, le toit étant formé de grosses toiles tendues sur des bambous, recouvertes ensuite de neige pour faire poids et isolant. La grande pièce centrale fut immédiatement baptisée Buenos Aires par nos Argentines, pour qui le centre du monde, où que l'on soit, est toujours Buenos Aires. Le poêle qui servait de chauffage et de cuisinière se trouvait dans Buenos Aires. Les tunnels de stockage et les petits coins, appelés Punta Arenas, recevaient un peu de chaleur en retour du poêle. Berta et Eva en sont les ingénieurs architectes. J'ai féminisé la traduction. Elles en étaient à la fois ces architectes décoratrices en chef, ces plus ingénieuses constructrices excavatrices et ces occupantes les plus assidues et satisfaites. Sans cesse, elles inventaient de nouvelles améliorations pour la ventilation. Elles nous apprenaient à installer des lucarnes fêtières ou bien encore elles nous révélaient quelques nouvelles adjonctions creusées dans la glace vivante. Ce fut grâce à elles que nos provisions furent rangées de façon si pratique, que notre poêle tira et chauffa si efficacement et que Buenos Aires, où 9 personnes faisaient la cuisine, mangeaient, travaillaient, conversaient, discutaient, grommelaient, peignaient, jouaient de la guitare ou du banjo, tout en veillant sur la bibliothèque de livres et de cartes de l'expédition, fut une merveille de confort et de pratique. Là, nous vécûmes réellement en bonne intelligence. Et si vous teniez absolument à un moment de solitude, il vous suffisait de ramper dans votre trou à dormir, tête la première. J'arrive à la troisième partie. Là, c'était sur l'habitat et les modes de construction écologique que je vais commenter juste avant de passer à la troisième partie, parce que c'est Helena Glassberg, dont je cite un peu le travail, qui explique que, au sujet de l'habitat des exploratrices, elle souligne l'influence de la mouvance écologiste contre-culturelle des années 60-70 sur les modalités de construction imaginées par Le Guin. La description que Le Guin fait du campement des femmes est l'entorse la plus radicale que contienne son histoire à l'imitation réaliste des récits d'exploration historique. Celle-ci se transforme alors franchement en utopie, invoquant un style nord-américain reconnaissable, invoquant aussi tout un répertoire de pratiques visant à vivre près de la terre en connexion avec l'environnement naturel. Au lieu d'importer du bois pour des cabanes, hormis le bambou et les planches de pin, ou d'ériger de fragiles tentes de toile, le camp de base des femmes est construit comme un igloo, à même la glace, s'adaptant au paysage plutôt que de s'imposer à lui. Au lieu du massacre incontrôlé de populations natives, d'oiseaux et de phoques pour se nourrir, les femmes subsistent grâce à des provisions végétariennes amenées avec elles et d'un peu de pêche. En contraste avec la colonie militaire et dystopique de Scott, les femmes végétariennes et égalitaristes adoptent des techniques de survie amérindienne, plus sûres et plus saines, pour construire leur village souterrain, à même la glace vivante. Et dans la troisième partie, je vais parler un peu de leur mode d'organisation qui est évoqué dans la nouvelle. Tandis que les modes organisationnels des équipes de Shackleton et Scott s'appuient sur un fonctionnement de type militaire, où les rôles sont régimentés et hiérarchisés, les voyageuses d'Amérique du Sud décident en chemin d'une organisation volontairement horizontale, qui rappelle les affinités anarchistes de l'écrivaine. Je cite le texte. Nous convainquons que si une situation devait se présenter où un danger extrêmement pressant exigerait que toutes obéissent sans discussion à une seule voix, l'honneur peu enviable de parler avec cette voix m'incomberait en premier, que si j'étais hors d'état de le faire, Carlota puis Berta prendraient ma place. La narratrice insiste sur le caractère peu enviable du statut de celle qui doit décider et se félicite que l'équipée n'ait jamais eu recours à ce pouvoir. Au contraire, toutes les neuf, nous menâmes à bien notre entreprise du début à la fin, sans que jamais un ordre ne soit donné par quiconque, et seulement deux ou trois fois un vote oral ou à main levée s'avéra nécessaire. Là encore, c'est en tant que subalternes qu'elles mettent en place ce système organisationnel. Elles ont accès à une autre appréhension du réel, car elles ont identifié l'existence d'une domination et ont choisi consciemment de s'en extraire. Elles incluent dans cette horizontalité les manchots, en les laissant les guider et en ne les tuant pas. Elles incluent également le paysage qui les entoure, en ne prétendant pas le dominer. Elles nomment leur environnement avec humour, sans prétention. Elles ne peuvent pas prétendre à la postérité et sont ainsi libérées d'un sérieux qui les étoufferait. Je cite le texte, « Nous donnâmes des noms à ces pics, sans nous prendre trop au sérieux, car nous ne nous attendions pas à ce que nos découvertes parviennent à l'attention des géographes. » Zoé avait un don pour cela, et c'est grâce à elle que certains croquis de cartes, dans certains greniers de faubourgs sud-américains, portent des dénominations aussi curieuses que « le grand nez de Bolivar »,« je suis le général Rosas »,« le faiseur de nuages », »,« l'orteil de qui ?» et « le trône de Notre-Dame de la Croix du Sud ». L'orteil de qui, c'est une blague par rapport aux orteils qui gèlent quand on explore l'Antarctique, il paraît. Ce que Le Guin met en mouvement de façon ludique dans ce récit, ce sont des subalternes dotées subitement du pouvoir de nommer, du pouvoir de tracer des limites, des frontières. Elles ont, par le biais de l'imagination, accès à un pouvoir qui leur est, en réalité, refusé depuis des siècles, en tant que femmes et en tant que natives d'un peuple racisé. Pour une fois, elles ne sont pas passivement désignées, nommées par une force supérieure et extérieure à elles-mêmes, mais ce sont elles qui désignent. Le lien entre l'assujettissement des femmes dans la société patriarcale et la domination et l'appropriation du territoire par la société capitaliste est mis en exergue par cet extrait de la nouvelle, ce court passage où des femmes s'autorisent à nommer le relief qui les entoure, non pas pour que la postérité se souvienne d'elles, mais pour parvenir à s'orienter. Une des dernières blagues de la nouvelle a lieu à l'endroit précis du pôle Sud. Elle fait sourire la lectrice ou le lecteur, mais pas les femmes de la nouvelle. Je cite « Le 22 décembre 1909, nous atteignîmes le pôle Sud. Le temps était comme toujours très cruel. Rien, absolument rien ne ressortait sur cette blancheur lugubre. Dolores, toujours debout et toujours aussi patiente dans son harnais de traîneau, regardait la neige. Cette dernière était tellement gelée qu'elle ne montrait aucune trace de nos empreintes d'arrivée. Elle dit « Dans quelle direction ?»« Nord, » dit Juliana. C'était une plaisanterie, parce qu'à cet endroit particulier, il n'y a pas d'autre direction. Nous ne rîmes point. Si les femmes ne rient pas, c'est sans doute parce que le retour, le nord, signifie la fin de la liberté. Ce qu'elles ont éprouvé, cette satisfaction à être capable d'une expérience socialement interdite, appartient aux marges de leur réalité. Il leur faudra rejoindre leurs époux, leurs fils et leurs pères. Il leur faudra à nouveau se soumettre à un système qu'elles n'ont pas fondé et où leur voix ne compte pas. La nouvelle met en place un paradoxe historique et littéraire qui interroge la possibilité même d'une historiographie féministe. Peut-on écrire un récit alternatif et s'émanciper tout à fait du récit dominant ? Il est plus question dans ce récit de science-fiction écoféministe de voir des femmes occuper l'histoire et le temps plutôt qu'un territoire matériel. L'expédition féminine ne laisse d'ailleurs aucune trace. We left no footprints, even. D'ailleurs, nous n'avons pas laissé d'empreinte. Et elle refuse ainsi de s'inscrire dans la téléologie de la conquête masculine. La téléologie, l'étude des fins, des finalités. Mais s'il n'y a pas de traces de leur passage, quelles histoires écrivent-elles ? La narratrice indique en préambule de son récit « Je pense que ce serait une bonne chose si l'une de mes petites enfantes ou quelqu'une de leur génération le trouvait un jour par hasard. » J'ai féminisé. Il s'agit de transmettre à qui pourra la lire l'idée qu'un jour, une autre façon de faire a été possible. J'arrive à la conclusion. En inventant une histoire plausible et invérifiable, elles n'ont pas laissé de traces, Le Guin pose en creux la question de l'élaboration d'une historiographie féministe. Comment des groupes sociaux considérés comme subalternes, pendant de longues périodes, peuvent-ils entreprendre l'excavation de leurs archives, de leur passé et même de leurs exploits ? En choisissant pour ses protagonistes des nationalités de pays d'Amérique du Sud, Le Guin insiste également sur le rang de subalterne attribué aux pays dits des Suds par le processus économico-politique de colonisation. La nouvelle est donc à la fois féministe et postcoloniale. Elle pose des questions liées au territoire et aux constructions de genre. C'est le domaine de la fiction qui permet à Le Guin de mettre en œuvre une réappropriation écoféministe des conquêtes territoriales historiquement masculines. Comme Émilie H. le formule, qui est l'éditrice du recueil Reclaim, où il y a des textes écoféministes rassemblés. Comme Émilie H. le formule, le terme Reclaim, dans sa polysémie anglaise, permet de différencier un retour en arrière, la nostalgie ou l'espoir d'un passé illisible, d'un renouvellement des pratiques et des pensées. Je cite Émilie H. Si l'on devait choisir un geste, un mot, capable d'attraper et de nommer ce que font les écoféministes, ce serait reclaim. Il signifie tout à la fois réhabiliter et se réapproprier quelque chose de détruit, de dévalorisé, et de le modifier comme d'être modifié par cette réappropriation. Il n'y a ici aucune idée de retour en arrière, mais bien plutôt celle de réparation, de régénération et d'invention, ici et maintenant. Clac, clac.
Ok, donc moi je vais plus essayer finalement de faire un peu un pont entre cette nouvelle et ce collectif et cette expérience autour du collectif. Il y avait plein de choses en fait qui communiquaient entre les deux et qui faisaient sens. C'est bien pour ça d'ailleurs cet atelier du genre se déroule comme ça. Entre autres, il y a une thématique qui était, moi qui m'a touchée particulièrement et dont on a beaucoup parlé quand on s'est réunis pour discuter et préparer ce jour, c'était celle de laisser une empreinte, laisser une trace. Enfin, moi j'ai choisi de l'entendre au sens plus large, quel impact on choisit de faire, de laisser volontairement, non volontairement, etc. Donc dans la nouvelle, c'est très présent en fait. Tout au long de la nouvelle, on a une importante opposition entre les empreintes, les traces et l'impact que laissent les expéditions précédentes, donc qui n'ont pas abouti au pôle sud, mais qui étaient des premières incursions sur le territoire vierge de l'Antarctique. Et donc là, on a, Noémie lisait un passage tout à l'heure, cette cabane, par exemple, qui est la première chose qu'on voit en arrivant, ces déchets, cette espèce de façon d'arriver, de laisser, parce que finalement, c'est à personne. Donc finalement, de prendre possession, de pas du tout prendre soin d'effacer son passage. Et on a cette idée de drapeau, d'aller poser cette marque, quoi, de revendiquer un continent avec son petit morceau de tissu et d'y apposer un nom, le nom d'un individu. Donc là, on a Scott, Amundsen, on a quand même vraiment cette idée qu'un individu va laisser un morceau de tissu de cette taille-là et revendiquer un continent entier. Et à côté, on a cette démarche dont parlait Noémie, qui est tout à fait dans l'opposé, c'est-à-dire que on est tout au long de la nouvelle dans quelque chose de très éphémère, de très discret en fait. Finalement, il y a un moment donné où on parle de ces marques de pas qui ont tassé la neige, et avec les vents, finalement, on a les empreintes en négatif de ces traces de pas. Et quelque chose de très poétique dans le fait de se dire que toutes leurs empreintes, elles sont très temporaires. Et en fait, ça a très peu d'importance pour elle, cette idée de poser une pierre, de revendiquer ou quoi que ce soit. C'est l'expérience collective, finalement, qui est vraiment au cœur de cette nouvelle. Et même un moment où c'est très beau, il y en a une qui a... il y a plein de moments où elles ont beaucoup de temps et où elles sont dans cette vie quotidienne, sous la glace, etc. Et il y en a une qui se crée un atelier et qui commence à faire des sculptures sur glace. Et du coup, l'autrice s'en amuse en disant que ça aurait été impossible à ramener sur le continent puisqu'elles n'auraient pas fait une semaine sur l'océan, qu'elles auraient déjà été fondues, et que du coup c'est ces espèces d'œuvres d'art qui resteront à jamais enfouies sous la glace et méconnues du monde. Y a aussi cette notion d'exploit qui m'intéressait par rapport à l'idée de l'empreinte et de l'impact qu'on choisit de laisser. Elle se situe vraiment... Alors, est-ce que c'est le choix d'Ursula Le Guin, quelque part, de mettre en condition ce qui permet de penser que ce récit est réel, qu'il n'y a aucune trace et que c'est pour ça que l'histoire n'en fait pas part. Ou est-ce que c'est un choix, finalement, de poser vraiment une opposition avec la démarche de la conquête nationale et masculine dans le récit, mais on a ce récit qu'elle raconte 30 ans après être rentrée, ou 20 ans après être rentrée, je ne sais plus, enfin une vraie durée comme ça, où c'est presque anecdotique qu'elle cache dans la dans une malle avec sa robe de mariée, etc., dans un grenier, où elle se dit peut-être qu'un jour quelqu'un de mes petits-enfants trouvera ça et ça l'amusera de se dire que sa grand-mère était un peu dingue. Et il y a quelque chose vraiment de cette expérience, cet exploit, elle le vit de manière personnelle et collective, mais c'est pas, l'objectif n'est pas du tout de transcender en fait cette expérience et d'en faire une réalité humaine au sens large ou de faire histoire. Ça interroge aussi beaucoup, bah, effectivement, la présence ou l'absence des femmes dans l'historiographie. Enfin, le pont le plus évident pour moi par rapport à cette idée d'empreinte, c'est, enfin, il y a vraiment deux directions que j'ai envie de prendre. La première, ça va être autour de l'éco-construction en tant que telle. Il y a quelque chose dans la construction humaine, particulièrement celle du XXe siècle, qui est un besoin de durabilité, un besoin de postérité fort. On a des égos très forts dans la construction et on a des ouvrages qui sont faits pour rester visible, pour rester vu, connu, pas forcément pour rester opérationnel, parce que finalement on se rend compte que le béton a une durée de vie bien inférieure pour être, enfin, en termes de construction saine, que la pierre, que la terre, ou même que le bois quand il est entretenu, etc. Mais plutôt une envie de marquer, de faire acte d'un ego en général, d'une personne, d'un individu, qui va signer un bâtiment sur lequel 1000 personnes vont avoir travaillé. Et on a à côté de ça un retour aujourd'hui vers une envie finalement de penser le bâtiment comme moins impactant, moins polluant, peut-être moins visible d'ailleurs, qui a du sens dans un monde où on réfléchit à comment finalement on ne va pas choisir d'être dans quelque chose de spectaculaire et de dangereux pour la planète, et plutôt choisir d'être dans quelque chose qui permet le vivre ensemble, le vivre sainement, etc., et qui est moins spectaculaire. Le choix des matériaux bruts au sein du collectif, il y a vraiment cette idée d'un minimum d'empreinte, d'un minimum d'impact négatif sur l'environnement, parce qu'on est dans du local, par exemple. On n'est pas sur de l'acheminement de matériaux qui va traverser le monde pour arriver là. Alors, soit c'est du bois, ou soit c'est des essences naturelles, mais en fait, rien que par son transport, finalement, ça marque une empreinte sur la planète qui est complètement illogique et qui n'a pas de lieu d'être. Donc, on va être sur une recherche très locale. La paille, par exemple, qu'on a utilisée sur notre premier chantier de construction, c'est celle qui était produite à moins de 10 km. Là, tous les matériaux qui ont servi sur la cabane de Noémie, elles ont été trouvées chez le paysan bio du coin. Enfin, il y a vraiment cette idée d'être dans cette démarche de « on va être les plus responsables possibles ». Et on va penser le non-impact, en fait. Il y a, moi, avant les cruelles truelles, mon premier métier, en fait, c'est la taille de pierre. Je suis tailleuse de pierre. Et mon expérience de la taille de pierre, elle est vraiment marquée par... Mon entrée dans ce travail, ça a été travailler sur des grands édifices, des grandes églises, cathédrales, basiliques, de créer du trait durable, en fait. Quelque chose que... Mes premières émotions de pierre, c'était de poser une pierre et de me dire peut-être que dans 500 ans, on la démontera et oui, non, on ne saura pas que c'est moi qui l'ai faite, mais ok, mais bon, d'accord, mais ma pierre, elle va rester là, elle va être hyper visible. Et puis, mes très nombreuses autres émotions liées à mon métier ont été plutôt quand j'ai travaillé sur du petit patrimoine bâti, sur de la petite maison, où d'un coup, je me suis rendu compte que là, je participais à un ouvrage qui était en mouvement constant, qui abritait de la vie, en fait. Et dans laquelle il y avait des mini-gravures à hauteur d'enfant, parce que les gamins, ils ont envie de dessiner sur des murs, et quand c'est de la pierre, ben, on gratte avec un truc. Et puis, quand on les défaisant, et ben, on se rend compte que les gens, ils ont remaçonné leur maison, et que, ben, ils avaient des bouteilles et des machins, et que ça faisait de l'isolant dans les murs, et du coup, on retrouve des petites choses comme ça, des espèces d'indices de la vie des personnes. Et du coup, je me suis vraiment spécialisée très vite sur ce qui n'est pas du patrimoine historique, reconnu comme historique. Et il y avait quelque chose dans cette démarche-là, pour moi, vraiment, de me démarquer de cette très forte présence dans le bâtiment de l'ego des architectes, qui est vraiment quelque chose dans le bâtiment classé. On ne peut pas faire un chantier sans avoir les préconisations très, 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 très précises d'un architecte des bâtiments de France qui n'a jamais touché un outil, ou si un petit peu pendant sa formation, mais qui va avoir une idée très précise de comment on doit faire son travail, de quelle manière, avec quelle pierre, etc. Et que du coup, on va se retrouver face à des incohérences professionnelles, mais qui vont nourrir cet ego, puisque lui-même va ajouter son nom en bas de la liste des personnes qui sont responsables de ce grand ouvrage qui restera encore 500 ans, et que lui, en revanche, on connaîtra son nom quand on aura envie de le voir. Donc, quelque part, quand on en est arrivé à ce collectif, l'envie, c'était aussi de travailler sur ce petit patrimoine, sur l'habitat, en fait. C'est pas de faire du grandiloquent, c'est pas de construire un énorme bâtiment qui va être reconnu pour toujours comme étant l'œuvre des Cruels-Truelles, mais plutôt de participer de manière très humble et très fluide à améliorer la vie des personnes qui en ont besoin, qui sont plus ou moins en capacité matérielle ou de réseau ou de connaissances, de trouver cette information, de trouver ses compétences, etc. La deuxième partie qui fait pont pour moi avec cette idée d'empreinte, d'impact et de trace, c'est celle qui touche autour du collectif, de l'expérience collective. Et du coup, chez nous, de ce collectif en mixité choisie sans homme cis. C'est que, comme on le voit dans la nouvelle, et comme j'en parlais par rapport à le XXe siècle qui a beaucoup nourri cette envie de construire et de construire pour durer malgré les espaces, malgré les paysages, malgré la logique des matériaux, la disponibilité de ces matériaux. Là, on a vraiment cette envie de... Personne ne signe, en fait. Il n'y a pas un nom dans ce collectif. Il n'y a pas une personne qui sort comme étant la personne opératrice ou sachante ou quoi que ce soit. Il y a vraiment quelque chose de... C'est un ouvrage qui est collectif. Comme Aurore le soulignait, on se détache aussi de cette idée de finalité. Si le chantier n'est pas fini, le chantier n'est pas fini, en fait. On n'est pas dans une notion de rentabilité. On va réorganiser quelque chose. Évidemment, on ne va pas laisser le bâtiment tomber en désuétude. Mais on va assumer, en fait. On est un collectif, on a nos rythmes. Et il y a un moment donné où la vraie finalité de ces espaces, ça n'est pas de produire, ça n'est pas de construire, ça n'est pas d'être dans une démarche ni marchande ni de rentabilité. C'est vraiment de construire du collectif, en fait, des espaces sereins, des espaces d'épanouissement personnel où chacun, chacune vient trouver exactement ce qu'il ou elle cherche et où on n'est pas du tout dans cette démarche, on n'est pas des ouvriers, ouvrières sur un chantier, en fait. On est vraiment dans de la co-construction d'espace. Voilà. C'est une dimension qui est très importante. Et au niveau, que ce soit au niveau des apprentissages, que ce soit au niveau du vivre ensemble sur les chantiers, comment on fait aussi de la place sur un chantier au fait de faire à manger, au fait de faire de l'acheminement des matériaux, l'organisation, la décision en amont, la conception, etc. Tout se fait de manière collective. Et c'est là, finalement, qu'on trouve une démarche qui est vraiment très éloignée de celle de l'individu. Donc il n'y a pas d'exploit possible d'un individu au sein de notre collectif, puisqu'on est vraiment dans une déconstruction de cette idée de... On est des individus au sein d'un collectif et pas du tout une personne en soi. Je conclurai en disant... Il y a quelques années, une copine du collectif, d'ailleurs, qui est archéologue, me racontait avec beaucoup d'émotion, et ça a beaucoup résonné chez moi, sa trouvaille d'un silo à grains. En fait, elle a découvert un silo à grains. Et comment elle a défini que c'était un silo à grains? C'est qu'en fait, il y avait une absence de bâtiment. Et il y avait des trous qui étaient les poteaux d'origine, puisque le silo était en hauteur pour préserver les grains, etc. Je ne sais plus vous dire de quelle époque il datait, mais c'était bien avant le Moyen-Âge, en tout cas. Et du coup, il y avait juste ces quatre absences de sol, en fait, qui s'étaient, au fil du temps, remplies par le nouveau sol qui avait été amené par le vent, etc. Et en fait, c'est ces poteaux de bois qui avaient pourri, qui avaient disparu. Et cette empreinte, cette négation de matière, négativité de matière, avait tout un sens historique. On pouvait comprendre par l'absence de cette bâtisse, en fait, plein de choses sur le mode de vie, etc. Sur comment s'organiser, qu'est-ce qu'ils cultivaient, quels étaient les mini-prédateurs qui pouvaient venir mettre en danger le grain et donc la vie, etc. Et j'avais trouvé que c'était une belle métaphore, en fait, sur parfois comment l'absence de traces, enfin l'absence de matière peut en dire beaucoup plus long que la présence de matière. Quand on voit des fondations d'une villa romaine comme on peut voir à Vieux ou quoi que ce soit, on comprend plein de choses, mais on comprend comment vivait la personne la plus riche qui a laissé le plus de traces sur le village. On comprend pas comment s'organisait nécessairement la vie autour. C'est la manifestation d'un individu, en fait, et de celui qui pouvait se permettre de laisser le plus de traces, de dominer le plus l'espace. Et du coup, je trouve qu'il y a une métaphore qui n'est pas inintéressante par rapport à cette nouvelle. C'est justement, enfin, j'aime bien l'idée que Ursula Le Guin nous permette de penser que c'est arrivé, parce qu'il n'y a rien qui puisse invalider son récit, finalement, justement parce qu'elle n'a pas laissé de traces, parce qu'elle accepte cette idée, qu'elle nous maintient dans cette idée qu'en fait, c'est pas parce que les femmes ne sont pas racontées dans l'histoire autant que les hommes qu'elles n'ont pas fait histoire et qu'elles n'étaient pas dans l'histoire. Elles étaient là tout au long du cours de l'histoire, bien entendu. Et finalement, par cette absence dans le récit, enfin de traces tangibles, eh ben, elle nous rappelle en fait que toutes ces aventures sont arrivées à plein de femmes au cours de l'histoire. Et malheureusement, on n'a pas les récits pour s'y accrocher, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas là, quoi. Voilà. Yeah.
C'est une démarche très récente. Ça fait un an que ce collectif existe, qu'il a eu très vite beaucoup de succès. Déjà dès la première réunion, je pense qu'il y avait déjà quoi, une quinzaine de personnes.
Presque 20
personnes. Donc comme quoi, c'était quand même, je pense, il y avait une convergence d'intérêts. Et pour cette question-là, donc c'est un collectif qui se propose de faire des chantiers autour de l'éco-construction, avec vraiment travailler sur les matériaux bruts, donc aider des gens à faire leur maison, ou en tout cas à les consolider, à les isoler, voilà, avec des matériaux exclusivement éco-responsables, on va dire. Donc c'est un collectif qui est en mixité choisie, 100 hommes, 6. Voilà. Alors l'idée, c'est pas de défendre cette position, mais c'est juste de vous dire que c'est ça. Et voilà, et que je pense que ça, bien sûr, ça, le fait que ce soit un collectif qui fonctionne comme ça, c'est bien sûr, on peut le contextualiser, mais c'est évident que ça fait sa spécificité, et je pense que ça fait aussi son succès, je pense. Alors moi, quand même, dire un peu d'où je parle, c'est que je pense que moi, je suis un peu au croisement de... j'ai une vraie appétence, je pense, pour les chantiers participatifs. Je pense que c'est pas la première fois que je participe à des chantiers. Je pense que j'aime participer à des chantiers participatifs, justement, ça me parle. Je pense que c'est venu au croisement aussi de mon militantisme féministe. Qui au fur et à mesure des années s'est plutôt axé sur le fait de justement de récupérer, je pense, des précarés soi-disant masculins. Donc que ça soit la mécanique vélo, mettre en place des ateliers en mixité choisie sans hommes cis autour de la mécanique vélo, apprendre aux femmes et à toute personne qui se détermine femme à entretenir son vélo, voilà, à réparer. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de parallèles, je pense, avec les cruelles truelles, hein, ça c'est sûr. Pour dire quand même qu'effectivement, il y a le choix, hein, de se réapproprier, je pense, des précarés masculins. Hein. Mais ce qui m'a tout de suite séduit quand même dans ce collectif, c'est vraiment l'idée, je pense, aider des gens à réaliser des projets d'habitat. Je pense que c'est quand même une symbolique très forte, je pense, d'aider quelqu'un avec toutes les bonnes énergies qu'on amène à sentir bien chez elle, chez eux. Je pense que, voilà, je pense que j'espère que ça participe après l'histoire du lieu. Et voilà, je pense que forcément aussi, aider à lutter contre la précarité énergétique, je pense que c'est quand même, pareil, quelque chose de très important maintenant. Je pense qu'on est quand même... quand on se détermine femme, je pense que si on a, on doit faire des travaux chez soi, je pense qu'on a quand même une forme de méfiance qui peut se mettre en place si on doit faire appel à des artisans. et voilà, je pense que le collectif peut amener aussi une vraie solidarité, une vraie sororité quoi, qui se met en place. Et je pense que voilà, j'espère qu'on amène ce climat de confiance absolue sur le fait que voilà, on est là exclusivement pour aider ces projets-là. Et puis forcément apprendre tout ce qui est technique d'éco-construction. Je pense qu'on peut tous et toutes avoir des envies de construire sa maison, en tout cas de bien chez soi, et je pense que d'aller apprendre des techniques, ça permet aussi de se projeter dans son habitat à soi, hein, forcément, sachant qu'en plus si on se dit qu'on va construire sa maison, on sait qu'on sera aidé derrière, donc voilà, très bien. Puis bien sûr avec l'idée de respecter les matériaux, respecter forcément, là on parle d'écoféminisme, c'est une évidence, mais effectivement, respecter, utiliser que des matériaux locaux, des matériaux bruts, c'est un vrai plaisir, quoi. Ça, c'est sûr. Quand on a commencé à travailler sur cette intervention, il y avait quand même des axes très forts. Il y a énormément de parallèles entre la nouvelle et les cruelles truelles, énormément, vraiment. Il y avait vraiment plein de choses à dire. On a essayé d'identifier un peu trois parties, hein, mais... sérieusement, je pense qu'on va pouvoir s'en extraire aussi, mais cette idée de virilité, vulnérabilité, je pense que c'est quand même important, quoi, de faire des passerelles, se demander bien sûr si leur rapport à l'exploit, à la performance, a un sexe. Alors on serait tenté à dire que oui, hein, visiblement, on est quand même dans une société où on va plutôt fonctionner avec toutes sortes de stéréotypes de genre. Donc plutôt voilà, associer les femmes, les filles à la passivité, les hommes à la force, voilà, et c'est compliqué, hein, c'est compliqué de s'en extraire, mais ça arrive très tôt, hein. C'est vrai que les garçons sont plutôt encouragés à passer du temps dehors, à faire leurs expériences dans l'espace public, à justement à s'approprier ces espaces-là. Donc faire leur expérience, ça veut dire aussi se tromper, enfin voilà, et puis occuper l'espace, quoi. Je pense qu'effectivement, on est plutôt dans une société où les hommes occupent l'espace, l'espace public. Et que les enfants, effectivement, très jeunes, ils vont intérioriser ces mythes-là, hein, selon lesquels les filles sont vulnérables, les garçons forts et indépendants. Hein. Donc voilà, donc quelle valeur on donne aussi à ces performances, hein, à cet héroïsme, déjà le terme héros quand même. Le terme héros est pas vraiment, enfin le pendant héroïne n'a pas vraiment la même signification dans cette société, ça c'est sûr. Alors justement sur les chantiers, moi je pense que je vais avoir tendance à être quelqu'un qui va avoir du mal à se détacher justement du côté exploit. Il faut tout donner, quoi. Je pense que justement moi-même, je pense que j'ai intériorisé ces stéréotypes et je pense que j'ai à cœur de sur les chantiers de pas enfin voilà d'être la plus forte possible, et je pense que voilà d'être, ben j'ai pas du tout envie d'être ni faible ni inutile, alors je pense que je me donne à fond, mais c'est justement, je pense que c'est bien aussi de travailler sur ça voilà. Et ouais, vraiment une envie d'en découdre, quoi, ça c'est sûr. Sur les chantiers on fait aussi bien, enfin vraiment très attention à cette histoire de capacité physique. Je pense que vraiment dans la charte, il y a quelque chose que je trouve très beau. On dit que, voilà, que les gens sont, on les accueille avec leur corps, leur force et leurs limites. Et que ça, je pense que dans cette société, de pouvoir accueillir les corps vieillissants, les gens effectivement qui sont dans des situations où au niveau du corps, on peut faire ou ne pas faire telle chose. Je pense que ça, c'est un collectif qui réfléchit énormément sur ça, sur le validisme. Et que justement ça décentre aussi cette notion de l'exploit, quoi, je pense. Se dire aussi que c'est important, enfin en tout cas de se laisser la possibilité de pas finir, voilà, sur les chantiers, effectivement se détacher un peu de la finalité. Je pense qu'on Ce qui est le plus important sur les chantiers, je pense que c'est le temps passé ensemble. Je pense que c'est quelque chose de très présent dans la nouvelle. Je pense que ce temps-là qu'elle passe ensemble, je pense qu'il n'a pas de prix, en fait. Et quelque part, même si elles n'avaient pas réussi, je pense, ce serait déjà ça, l'exploit d'avoir pu mettre ce temps-là en place, quoi, entre elles. Ouais. Ça, c'est sûr. Donc, valoriser plutôt les actes plutôt que la finalité, quoi. Et dans le fait de se réapproprier aussi, il y a quelque chose qui s'est passé la dernière fois qui était vraiment intéressant sur un des chantiers. C'est que quelqu'un a mis le souhait de travailler torse nu. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a été, je pense, très fort dans le fait de se réapproprier son corps en tant que femme sur des chantiers. Parce qu'on va avoir tendance, effectivement, à complètement banaliser le fait que les hommes puissent être torse nu dès qu'il fait chaud, quoi. Et ça, je pense que ça a été une image très très forte, je pense, d'avoir ces torses qui sont absolument pas sexualisés, bien sûr, hein, mais qui sont qui sont dans une vraie liberté d'action. Donc je vous invite bien sûr à venir nous rejoindre. C'est collectif. Oui. Je voulais parler aussi de tout ce qui est transmission de connaissances. Là, Noémie parlait beaucoup d'horizontalité. Ça, c'est forcément quelque chose. Quand on apprend, et d'ailleurs, ça, c'est vraiment le terme utilisé sur les chantiers. Il y a des gens apprenants ou apprenantes et des gens sachants ou sachantes. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est quand même vraiment un terme très fort. Parce que je trouve que le terme apprenant ou apprenante, je trouve qu'il inclut vraiment cette marge de progression qu'on peut avoir dans le fait justement d'apprendre, quoi. Mmh. Je vais faire juste un petit parallèle avant, mais je vais revenir sur cette notion-là. C'est que quand je parlais d'expérience autour de la mécanique vélo, donc c'est effectivement, il y a énormément de parallèles, hein, puisque c'est des espaces souvent où il n'y a que des hommes cis, hein, généralement, dans les ateliers. En tout cas, c'est un espace parfois, même très souvent, qui est en mixité sans femmes ou sans personnes trans, ça, c'est sûr, que ça pose de problème à personne, hein, ces espaces de mixité, de non-mixité hommes. Et il va y avoir énormément de sexisme, mais de sexisme bienveillant, on va dire. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans des situations où des hommes vont te prendre les outils des mains, vont essayer de faire à ta place, vont régler ton problème mécanique sans que tu n'aies pu ni comprendre, ni essayer de comprendre d'ailleurs, hein, et donc ni essayer de faire par toi-même forcément. Hein. Et donc ça va te mettre encore une fois dans une position de dépendance, hein, par rapport à une aide extérieure la prochaine fois où tu vas avoir besoin d'être aidé. Hein. Donc ça s'entretient, c'est ça qui est très fort. Et je pense que ce temps-là, justement, de se réapproprier les outils, ça, c'est quelque chose de très fort. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose de très, très fort. Je pense que c'est pas une symbolique, je sais pas. J'aime vraiment manier des outils. Et je pense que c'est pouvoir, ça donne du pouvoir, quoi. Vraiment, je pense que c'est pas juste un terme, quoi. Et ça, bien sûr, dans les cruels, de manier des outils, je pense que ça, rien que ça, d'avoir un outil en main, de pas être juste nul parce qu'on sait pas l'utiliser, juste parce qu'on n'a pas appris à l'utiliser, ben ça c'est quelque chose qui s'acquiert, quoi. Et justement ça dans l'atelier autour de la mécanique vélo, ça c'est quelque chose qu'on entend énormément, hein, ça là pour le coup c'est quand même surtout des femmes qui vont dire qu'elles sont nulles. Et vraiment, alors que, enfin, c'est une impression ressentie, bien sûr, hein. Elles sont pas nulles, c'est une impression ressentie, quoi. Alors que la question, c'est pas d'être nulle, hein, c'est plutôt d'avoir jamais appris à se servir de tel ou tel outil. Et ça, c'est, je pense que la grande force, encore une fois, de ce collectif, c'est d'apprendre à se servir d'outils. Voilà. Cette idée que, finalement, pour les femmes, il y a très peu de place entre le fait de pas savoir et savoir. Soit on sait pas, ou soit, on s'est débrouillé pour savoir, mais sans être vu quelque part, hein, parce qu'on a très peu, je pense, le droit à l'erreur en tant que femme, j'imagine encore plus en tant que personne trans, mais vraiment cette idée que c'est important de se tromper, que c'est important d'expérimenter, et ça c'est quelque chose aussi qu'on expérimente tous et toutes ensemble dans le collectif, c'est de devoir trouver des solutions à des problèmes. Et puis, on tâtonne et on est encouragé, en tout cas, à expérimenter, quoi. Et justement, à essayer de travailler sur cette horizontalité et passer d'apprenant à apprenante à sachant et sachante, forcément, quoi. Donc, voilà, sachant que, bien sûr, cette idée... que je pense que cette mixité choisie, elle nous permet aussi d'éviter le fait que, même en tant que personne, en tout cas là, voilà, femme ou personne trans qui sait, on peut quand même se voir invalidée dans notre expertise ou dans nos connaissances par des hommes cis, qui vont t'expliquer bien sûr comment faire ton travail. Donc ça, effectivement, ça, cette absence de condescendance, comme on en parlait dans la nouvelle, hein, effectivement, ouais. Où les femmes vont se faire expliquer comment déballer des cartons, hein. Et là on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Justement, cette absence de condescendance, je pense que c'est aussi une grande force du collectif. Voilà, donc il y a plein de choses à dire, mais voilà, on va sûrement échanger après. Et puis, je passe la parole. Merci beaucoup.
Merci.